Deuxième et non, on prend les autres.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La vie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue ménage. Honte femme. Honte femme, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis. Bonjour et bienvenue dans Honte Femme, Revue Ménage, Radio Zone 93.8. Aujourd'hui, la technique, ça fait des bruits très bizarres, mais on va s'y remettre, tout va fonctionner comme d'habitude. Et nous vous rappelons que si jamais vous voulez soutenir plus que jamais notre radio pour qu'elle existe malgré ces petites bulles techniques, eh bien il vous suffit de nous acheter une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 100 francs suisses, non, 30 francs suisses, pardon, et 100 francs français, en nous appelant au 50 40 51 41, je répète, 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Alors voilà, aujourd'hui dans Remue Ménage, nous sommes deux, Viviane et moi, et nous avons rencontré une femme fantastique que peut-être vous avez eu l'occasion de connaître l'année passée. Elle est chilienne, réalisatrice de documentaires. Elle était aussi révolutionnaire, mais tout de suite, je crois que Viviane peut nous en faire un tableau un petit peu plus élargi et fourni que ce que je vous dis là tout de suite. Viviane.
Alors, en effet, à l'occasion des rencontres des médias Nord-Sud, nous avons rencontré Carmen Castillo qui venait vous présenter un film qu'elle a réalisé avec une de ses amies, Tessa Brissac, ce film qui s'intitule La véridique légende du subcommandante Marcos et qui nous raconte le mouvement des zapatistes au Chiapas, mais surtout qui nous laisse entendre un très long interview du subcommandante, du sub Marcos, comme on l'appelle, avec son passe-montagne. Et c'est une des premières fois qu'on peut entendre et voir à la télévision Marcos qui parle. Donc c'est un très très joli beau film, à la fois par sa forme et à la fois par les questions et les questions qu'il nous pose et qu'il suscite en nous. Alors Carmen Castillo, effectivement, elle a elle-même un long passé révolutionnaire puisque c'était une des leaders du mouvement révolutionnaire chilien, le MIR. Le MIR qui donc prenait sous la présidence d'Allende, qui a soutenu Allende, mais en disant le vote et le fusil, donc en gardant bien aussi qui a été un mouvement de guérilla urbaine, mais aussi dans les montagnes avec entre autres des Indiens, les Mapuche. Carmen Castillo était donc une des leaders du MIR puisqu'elle était la compagne du secrétaire général du mouvement de la gauche révolutionnaire, Miguel Enríquez. Son histoire au Chili s'est terminée très brutalement le 5 octobre 1974, lorsque la maison où ils étaient avec Miguel Enríquez et d'autres compagnons a été encerclée par la police. Miguel Enríquez a été tué, elle-même a été blessée, ensuite arrêtée, torturée, elle a perdu là son enfant. Et c'est uniquement une grande campagne de mobilisation internationale qui a permis sa libération et donc elle a été pendant 20 ans, depuis 20 ans, elle est exilée à Paris. Donc c'est avec un regard à la fois très lucide et très intéressé qu'elle est allée voir le sub Marcos et voilà.
Mais on avait découvert déjà une partie de cette vie de Carmen Castillo par le biais d'un premier documentaire qu'elle avait fait, qu'elle a présenté l'année passée aussi aux rencontres Médias Nord-Sud et qu'on avait pu aussi voir à la télévision, c'est La Flaca Alessandra, qui raconte cette histoire incroyable de la rencontre de Carmen Castillo avec une militante du MIR qui a été arrêtée, torturée et qui, dans ces circonstances-là, à un moment donné, a donné les noms d'un certain nombre de gens de l'organisation et entre autres qui a abouti à cette fameuse prise d'assaut de la maison où se trouvaient Miguel Enriquez et Carmen Castillo. Et Carmen Castillo a choisi de confronter cette femme qui avait eu envie de parler, qui avait eu envie de savoir ce qui s'était fait, dénoncer ces tortionnaires. Et Carmen a été d'accord de faire un film autour de cette femme, mais c'était un moment très très prenant parce qu'on confrontait en quelque sorte la traître, enfin celle que tout le monde à un moment donné avait considérée comme une traîtresse, la victime, et puis d'autres femmes qui avaient subi la torture et qui échangeaient ce qu'elles avaient ressenti dans ces moments-là et ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire lorsqu'on était sous la torture et comment on pouvait y résister. C'était un film très très fort et qui mettait en cause Carmen Castillo elle-même. Aujourd'hui, dans ce film, la véridique histoire du sous-commandant de Marcos, c'est un petit peu une autre histoire. On sent qu'elle est profondément attirée par ce qui se passe dans l'armée zapatiste et au Chiapas.
Oui, effectivement, ce film, comme je l'ai dit, d'un côté nous raconte l'histoire du mouvement, l'histoire depuis une année, c'est-à-dire depuis qu'ils sont devenus publics, depuis que les zapatistes sont apparus très brutalement, à la fois sur la scène mexicaine, mais tout de suite internationale, en prenant quatre villes au Chiapas, dont la capitale, San Cristobal, le 1er janvier 1994. Donc, elle nous raconte l'évolution, les prises de position cette année, les jalons de cette année, et surtout elle donne la parole au sub Marcos. Je vous dis, il est là avec son passe-montagne puisqu'on ne voit jamais sa figure, et il nous explique d'ailleurs très bien le pourquoi du passe-montagne, en disant c'était une manière d'essayer de critiquer la notion de chef, de caudille, de leader, en disant ben voilà, c'est quelqu'un sans visage, n'importe qui peut être Marcos, n'importe quel zapatiste avec son passe-montagne peut être Marcos, il n'y a pas de personnification de Marcos. Et puis tout de suite après, il dit, mais ça a raté, parce qu'en fait, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un leader avec un passe-montagne.
C'est un peu le ton d'ailleurs de l'ensemble de l'interview que Carmen Castillo réalise avec ce sous-commandant de Marcos, parce que à la fois il affirme leur choix politique, puis en même temps il y a toujours ce regard critique, parfois de dérision sur ce qu'ils ont fait, une très grande clairvoyance sur à la fois leurs avances et leurs gains magnifiques, et puis en même temps effectivement des échecs, des erreurs, des faux pas, et puis des lourdes, effectivement parfois certaines lourdes défaites.
Alors, peut-être pour commencer, j'aimerais, avant d'écouter Carmen Castillo qui nous parle de son film, j'aimerais vous lire un poème de Marcos. Poème qui vient d'être publié avec toute une série d'autres, avec tout ce qu'a écrit Marcos, tous les communiqués, toutes ces lettres, tous ces écrits, puisque Marcos se présente comme le scribe du mouvement, qui sont réunis dans un livre qui s'appelle Ya Basta, donc publié aux éditions d'Agorno. Les insurgés zapatistes racontent un an de révolte au Chiapas, et là, il nous dit un poème. Que s'élève ma voix dans la montagne et descende à la terre et tonne. Voilà ce que demande ma gorge, dès à présent et depuis toujours. Hier, le peuple s'est levé, nu et sans rien à se mettre, affamé et sans rien à manger, et cette journée se lève, à juste titre tourmentée et sanglante à juste titre. Dans ses mains, les fusils veulent se faire lions pour en finir avec les fauves qui l'ont si souvent été. Bien qu'il te manque les armes, peuple aux 100 000 pouvoirs, que tes os ne s'évanouissent pas, punis celui qui te blesse, tant qu'il te reste les poings, les ongles, la salive, et qu'il te reste le cœur, les entrailles et les tripes, et les attributs du mal, et les dents. Je suis ici pour vivre tant que l'âme résonne en moi, et pour mourir je suis ici quand l'heure sera venue à moi, dans les sources du peuple désormais et à jamais. La vie est plusieurs gorgées et la mort n'en est qu'une.
El tiempo, el implacable, que pasó. Siempre una huella triste nos dejó. Qué violento cimiento se forjó.
Susanna, une totsile, est furieuse. Un moment auparavant, elle se faisait chahuter parce que d'après les autres membres du comité clandestin révolutionnaire indigène, c'est elle qui porte la responsabilité du premier soulèvement de l'armée zapatiste en mars 1993. « Je suis furieuse », me dit-elle. Tout en essayant d'en savoir plus, je me protège derrière un rocher. Les compagnons disent que c'est de ma faute si les zapatistes se sont soulevés l'an dernier. Je commence à m'approcher, prudent. Au bout d'un moment, je découvre ce dont il s'agit. En mars 1993, les compagnons discutaient de ce qu'allaient devenir les lois révolutionnaires. C'est à Susanna qu'était revenue la tâche de parcourir des dizaines de communautés pour parler avec les groupes de femmes et extraire de leurs pensées la loi sur les femmes. Lorsque le comité clandestin révolutionnaire indigène s'est réuni pour voter ces lois, une à une ont défilé les commissions sur la justice, sur la loi agraire, sur les impôts de guerre, sur les droits et devoirs des peuples en lutte et sur les femmes. Susanna a alors dû lire les propositions qu'elle avait tirées de la réflexion de milliers de femmes indigènes. Elle s'est mise à lire et au fil de sa lecture, l'assemblée du comité clandestin révolutionnaire indigène paraissait de plus en plus inquiète. On entendait des rumeurs et des commentaires. En chol, en tetzal, en totsil, en tolojabal, en mam, en zoké et en castilla, les commentaires fusaient. Sans s'en émouvoir, Susanna a continué de s'en prendre à tout et à tous. Nous voulons que l'on ne nous oblige plus à nous marier avec un homme que nous n'aimons pas. Nous voulons avoir le nombre d'enfants que nous désirons et dont nous puissions nous occuper. Nous voulons le droit à prendre des responsabilités dans la communauté. Nous voulons le droit à la parole et que celle-ci soit respectée. Nous voulons le droit d'étudier et même celui d'être chauffeur. Elle a continué ainsi jusqu'au bout. À la fin, elle avait laissé un silence pesant. Les lois sur les femmes que venait de lire Susanna signifiait une véritable révolution pour les communautés indigènes. Les responsables féminines étaient encore en train de recevoir la traduction dans leur dialecte de ce qu'avait dit Susanna. Les hommes se regardaient l'un l'autre, nerveux, inquiets. Soudain, presque en même temps, les traductrices ont fini leur travail et dans un mouvement croissant, les compagnes responsables se sont mises à applaudir et à parler entre elles. Inutile de dire que les lois des femmes ont été approuvées à l'unanimité. Un responsable tetzal commentait « Ce qu'il y a de bien, c'est que ma femme ne comprend pas l'espagnol parce que sans ça, une femme officier insurgée, totsil, et portant le grade de major d'infanterie, lui bondit dessus. « Tu as tout faux parce qu'on va le traduire dans tous les dialectes. » Le compagnon baisse les yeux. Les femmes responsables chantent, les hommes se grattent la tête. Moi, prudemment, je lève la séance. Voilà, d'après Susanna, l'histoire qui a ressurgi lorsque quelqu'un du comité révolutionnaire clandestin révolutionnaire indigène a lu la note d'un journaliste qui signalait que la meilleure preuve que l'armée zapatiste n'était pas authentiquement indigène résidait dans le fait que jamais les indigènes ne se seraient mis d'accord sur l'idée de se soulever pour la première fois un 1er janvier. Quelqu'un, pour rire, a dit que ce n'était pas celui-là le premier soulèvement, qu'il y en avait eu un autre en mars 1993. Ils se sont un peu moqués de Susanna, qui a pris congé par un tonitruant « Allez vous faire foutre », suivi de quelque chose en totsil que personne n'a osé traduire. Voilà la vérité. Le premier soulèvement de l'armée zapatiste a eu lieu en mars 1993 et ce sont les femmes zapatistes qui étaient à sa tête. Il n'y a pas eu de perte et elles ont gagné. Ce sont les choses de cette terre.
Marcelino pisando el vino, paredes el oro de Culampaja. Marcelino pisando el vino, paredes el oro de Culampaja. Yo no sé, yo no sé.
Voilà, c'était aussi un passage qui était tiré de ce livre Yabasta qui regroupe les écrits du scribe, le soub Marcos. Donnons maintenant la parole à Carmen Castillo qui nous raconte, nous explique la démarche qui a abouti à ce film.
Vous êtes ici à Genève pour les rencontres Média Nord-Sud pour présenter un magnifique film qui s'appelle La véritable légende du subcommandante Marcos. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film, de rencontrer Marcos et de parler de lui?
Cette histoire, cette rébellion zapatiste, qui est vraiment une rébellion indienne, maya, avec cet personnage créé de toutes pièces par eux, qui est le sous-commandant Marcos, est une histoire que je considère très très importante pour nous partout dans le monde. Parce qu'elle elle nous parle d'abord de ce qui est de quelque chose de très simple, qui est même après la fin de tout, la fin des utopies, la fin de la guerre froide, la fin de nos croyances, l'échec et les défaites du mouvement révolutionnaire en Amérique latine, voilà que des gens disent « basta, ça suffit », et qu'ils se révoltent et prennent les armes pour se faire entendre. Et que donc ils nous disent, ils nous racontent tout simplement que cette société néolibérale ne fait pas le bonheur des gens, que c'est pas vrai, que on ne peut rien faire, qu'on peut sans problème se relever, se tenir debout, se battre pour la dignité, pour la liberté, pour la démocratie. Donc c'est une histoire très locale. Et donc c'est une histoire très locale dans les montagnes du sud-est du Mexique, des communautés, des villageois, des paysans mayas se révoltent pour se faire entendre parce que ils se sont retrouvés vers la fin des années 92 avec l'anniversaire de 500 ans de la conquête espagnole sur les civilisations indiennes d'Amérique latine, sans voie légale pour se faire entendre. Il faut penser que c'est des Indiens modernes, des pionniers, des colons, qui sont partis coloniser les terres de la forêt Lacandone, parce qu'on leur a dit que là il y avait des terres, mais qui connaissent tous les rouages de la modernité. Et moi ce qui m'a impressionné, c'est vu à la lumière de notre histoire, vu à la lumière même de ces régimes, de ces sociétés comme la chilienne, où on a l'impression d'une énorme résignation, comme si vraiment cette société dans laquelle on vit, il n'y a pas une autre possible, que tout le reste est mauvais et qu'il faut, il faut s'y résigner. Donc c'est un film, un documentaire qui est né de la rencontre de Carmen Castillo avec Tessa Brisac, qui est mon amie depuis 18 ans. C'est une de mes premières amies à l'arrivée en France. Et ce double regard avec des motivations différentes, parce que Tessa, elle est française, mais elle a vécu au Mexique pendant plus de 10 ans. Moi, je suis chilienne, mais j'ai vécu en France. Donc ces doubles regards, presque en miroir, sur une réalité bouleversante que celle du Mexique de cette rébellion aujourd'hui, a donné ce documentaire tout simple, mais à la fois j'espère sincère sur ce qui est vraiment à travers le récit du sous-commandant Marcos. Parce que pourquoi le sous-commandant Marcos? C'est pas que... Et pourquoi donc le sous-commandant Marcos? Il ne s'agit pas seulement d'une fascination, parce que bon, effectivement, il y a tout un pays qui est accroché à ce personnage, à cette espèce de mythe, personnage insaisissable, créé des toutes pièces par les Indiens et par lui-même. Un homme donc qui a un regard, des mains, mais qui est toujours derrière un masque, le passe-montagne, et que, comme dit lui-même dans le film, si bien au départ l'histoire des passe-montagnes et des masques était pour se battre contre le caudillisme, contre les chefs, résultat de tout ça, on se trouve devant un caudillo masqué.
Moi, une chose qui m'a beaucoup touchée dans ce film et beaucoup interpellée, c'est effectivement ce long interview de Marcos où on voit aussi une autre manière de militer, une autre manière de parler, ce refus justement du leaderisme et surtout cette fin extraordinaire où il dit « un bon militant, c'est quelqu'un de vivant ». Il ne faut pas mourir. Ce qui est très opposé à tous ces mots d'ordre, patria libre ou mourir, qui ont vraiment jalonné toute l'histoire des guérillas sud-américaines. Est-ce que c'est aussi quelque chose, avec aussi votre passé, votre histoire militante, qui vous a touché?
Profondément, parce que je pensais toujours, après la mort et la disparition de tellement d'amis, et l'assassinat de Miguel Enríquez, et nous, les survivants en exil, je pensais toujours que c'était pas notre moteur, la mort. Que nous, on était des gens comme tout le monde et que c'était la bourgeoisie qui parlait toujours de la mort des révolutionnaires et qu'on parlait jamais de la vie des révolutionnaires et qu'en fait, nos motivations, elles étaient parfois des histoires d'amour comme tout le monde ou des... et que c'était pas vrai tous ces mots d'ordre. Et nous, on rigolait beaucoup dans le mire des petites photos qui de culte au zéro, des cultes à la mort. Mais notre discours, notre rire, notre distance restait entre nous, intérieure. Elle n'était jamais exprimée à l'extérieur. Quand les dirigeants parlaient, c'était des discours très sérieux. Et effectivement, avec des mots d'ordre, patria muerte venceremos, c'était quand même... Il y avait toujours le mot vaincre, mais il y avait toujours cette histoire de la mort comme, quelque chose qui traversait toutes ces générations, où on pouvait se dire, mais qu'est-ce qu'on cherchait? Qu'est-ce qu'on a laissé? Et tout d'un coup, face à, à ces mots de cette guérilla zapatiste... à des mots iconoclastes, poétiques, plein d'humour, de rire, avec cette distance, et avec Marcos qui est donc ce porte-parole, ce traducteur, ce passeur de cette guérilla envers le monde urbain, qui dit nous, on veut pas que de nous on hérite le culte à la mort, on veut qu'on hérite le culte à la lutte. Et pour lutter, il faut être vivant, et tout ce qui est de l'ordre de la mort nous intéresse pas. Mais il rajoute tout de suite après, nous les morts de toujours, nous disons basta. Et ça, c'est pas de la rhétorique, c'est une position politique, une position nouvelle, une place à partir de laquelle on fait de la politique et on exige des choses qui sont non négociables, comme c'est la démocratie ou la liberté ou la justice. Et pour approcher vraiment cette rébellion, il faut aussi comprendre ça. À la fois, il n'y a aucune mythologie du guerrier, mythologie de la violence, mythe du combattant armé, masqué. Ils ne prétendent pas le pouvoir, ils ne veulent pas, ils ne sont pas une avant-garde. Donc très différent à nous, très très différent à nous. Mais qu'en même temps, c'est les morts de toujours, parce qu'il faut savoir que ces Indiens mayas étaient condamnés à la mort. Mais vraiment depuis les diarrhées, jusqu'aux épidémies, jusqu'aux famines, et que quand ils disent « Attention, qu'est-ce que vous allez nous proposer ? Une ambassade ? Une revue ? De l'argent ? Mais non, on est déjà morts. Vous devez répondre à ce que nous exigeons. Démocratie, justice, liberté. » Et démocratie, justice, liberté, ce n'est pas des mots d'ordre vides, c'est pas des consignes, c'est consignas, on dit en espagnol. Bon, c'est... toujours raconté par eux-mêmes à travers les mots du sous-commandant, scribe officiel des zapatistes, comme on dit dans le film. La conception, quoi, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là pour les Indiens mayas?
Il y a, pour moi aussi, il y a un aspect que je trouve très nouveau dans la lutte zapatiste, c'est la présence des femmes, non seulement guerrières, mais qui aussi ont leurs revendications propres. Est-ce que vous, dans votre rencontre avec Marcos, vous avez aussi senti cette force qui n'a jamais été dans aucune guérilla? On a vu à la fois les femmes participer, ça bien sûr, elles ont toujours participé, mais non participer comme actrices sociales avec leurs revendications.
Et il dit, une des premières choses que j'ai appris effectivement avant même de les rencontrer au mois de février 94, c'est à travers des écrits, c'est à travers un texte signé par Marcos aussi, mais qui disait la première révolution zapatiste a été la révolution des femmes. Et effectivement, la loi des femmes, les femmes insurgées zapatistes l'ont exigé avant de voter la guerre. Nous avons dû, nous les hommes, être forcés de voter positivement les exigences des femmes. Et il faut savoir ce que ça implique pour une femme indienne de rentrer donc dans l'armée zapatiste où elles ont accès à l'alphabétisation, à la culture, mais aussi à une autonomie, à une liberté qu'elle connaissait pas avant dans les rapports donc traditionnels, à savoir qu'à partir de maintenant, elles peuvent choisir l'homme avec qui elles vivront, si elles divorceront ou pas, si elles feront des enfants ou pas. Elles auront une exigence première qui est la loi sèche, c'est-à-dire la prohibition, l'interdiction de boire de l'alcool pour les hommes. Parce que c'est une région où le flot, l'alcoolisme est gravissime. Donc les femmes ont d'abord exigé ça. Et quand on posait la question à des insurgés, comment imaginez-vous le retour au village? Effectivement, c'est inimaginable pour le moment. C'est des combats presque sans issue, quoi. C'est,
Mais dans votre film, vous évoquez pas du tout cette question des femmes.
Non. Non, parce que... Un film n'est qu'un film. Nous avons travaillé 6 semaines entre juillet et août. Nous avons fait beaucoup d'entretiens dans des communautés, avec des porte-paroles, avec des commandants indiens, avec des insurgés. On avait beaucoup de mal à approcher les femmes, hein, beaucoup, beaucoup de mal. Par exemple, nous avons appris par Marcos en octobre que le village de Morelia, où nous avons passé plusieurs jours à deux reprises, qui est un village qui n'était pas protégé par le territoire zapatiste, parce que c'était une enclave entourée par l'armée, près d'Ocosingo, d'Altamirano. Et un village extraordinaire, extraordinaire, où on pouvait parfaitement s'imaginer de rester. Là, nous avons eu l'occasion de parler avec le porte-parole du village, un homme... qui s'appelle toujours, j'espère, s'il n'a pas été tué, Jus, qui nous racontait donc l'histoire du village, qui nous racontait comment les zapatistes, pour eux c'était une évidence, qui venait depuis très très longtemps, depuis toute leur lutte. Bon, nous apprenons donc en octobre qu'à Morelia, nous dit Marcos, c'est les femmes qui ont voté la guerre, c'est les femmes qui ont exigé des hommes de s'engager dans l'insurrection, et nous on ne les a pas rencontrés. On les voyait de loin. On voyait, il y avait une assemblée en langue indienne qu'on ne comprenait pas. Et on voyait traverser le petit socalo, la petite place du village où il y a toujours les terrains de basket, plein de femmes avec les enfants, tu vois, qui marchaient, puis qui arrivaient à l'école où se tenait l'assemblée et qui discutaient entre eux. Donc on a appris des bribes par un traducteur qui nous traduisait. Mais on n'a jamais plus... on a demandé, par exemple, beaucoup aux zapatistes d'interviewer la commandante Ramona ou la major Ana Maria, qui sont des dirigeantes zapatistes, femmes formidables. On n'a jamais pu, parce que vraisemblablement, elles étaient protégées et gardées à l'époque. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas prétendre dans un film... En arrivant avec des caméras, en arrivant de loin, tout faire, quoi. Et d'une certaine manière, et tout ça reste à faire. Il faut continuer, quoi. Il faut continuer à travailler, à réfléchir, à penser, à suivre cette histoire qui est en train de se faire.
L'année dernière, vous étiez ici aussi avec un précédent film, La Flaque Alessandra, qui racontait une histoire terrible et émouvante d'une femme chilienne qui avait été arrêtée, militante chilienne arrêtée, torturée, qui avait parlé, qui avait trahi en quelque sorte. Entre ces deux films, quel lien vous voyez, aussi par rapport à votre histoire?
Peut-être, d'une manière étrange, je ne bouge... Je fais un travail d'ailleurs collectif, soit avec Guy Girard dans La Flaque Alejandra, soit avec Tessa Brisac dans La Véridique Légende du Sous-Commandant, et en plus avec toute une équipe. Je dirais que la continuité est toujours du côté de cette espèce de flamme, quoi, conviction que l'être humain ontologiquement est un homme libre qui se révolte, qui s'engage, et qu'en dépit de tous les échecs, de tous les morts, de tous les deuils, de tous les effondrements, l'engagement, la révolte, la liberté font partie de l'être humain, et que je verrais une continuité comme ça, une continuité presque philosophique. Avec toujours les mêmes thèmes, quoi, toujours les mêmes thèmes, même si c'est entouré de morts dans le passé, même si c'est dans l'espoir aujourd'hui, même si ça n'a rien à voir, même si l'histoire du mouvement zapatiste est nouvelle, quoi, c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin des mouvements. Les années 60-70.